Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans notre podcast, où nous allons ensemble explorer l'un des mystères les plus captivants de l'histoire australienne. Nous sommes en 1977, dans la banlieue paisible de Collingwood, à Melbourne, où une découverte macabre, dans une maison sur Easy Street, vient perturber la quiétude du quartier. Deux jeunes femmes, unies par une amitié profonde, partagent leur quotidien dans cette demeure qui, sans prévenir, se transforme en une scène de drame inimaginable. La tranquillité de leur existence est brisée. Leur foyer, autrefois rempli de rire et de vie, est soudain enveloppé d'une aura de mystère. L'écho de cette affaire résonne à travers le pays, captivant l'attention et l'imagination de tous. Je vous invite à vous immerger dans ce mystère, à suivre les traces laissées, à examiner les pistes et à contempler les répercussions sur ce qui reste. Préparez-vous à une exploration où chaque détail compte et où chaque tournant pourrait être la clé de l'énigme. Dans les années 70, à Melbourne, la capitale de l'État de Victoria, s'épanouit un centre commercial et financier moderne, reflétant le dynamisme de l'Australie. Cette période est marquée par une transition significative, où la ville s'éloigne de son passé industriel pour embrasser une ère de diversité et d'innovation. Collingwood, un quartier emblématique de Melbourne, illustre parfaitement cette métamorphose. Jadis un bastion ouvrier, le quartier se transforme sous l'impulsion des changements sociaux et économiques. La désindustrialisation entraîne une mutation du paysage urbain, avec l'apparition de nouvelles communautés et une évolution du tissu social. Les rues de Collingwood, autrefois rythmées par le bruit des machines, deviennent le théâtre d'une culture en effervescence où l'art, la musique et la gastronomie prennent vie dans un nouveau contexte urbain. L'histoire de Melbourne est également marquée par l'arrivée de vagues successives de migrants, enrichissant la ville d'un mélange culturel. Après la Seconde Guerre mondiale, la ville accueille des réfugiés d'Europe centrale et de l'Est, suivis par des familles venues d'Italie, de Grèce et des Pays-Bas. Ces communautés diversifiées contribuent à façonner l'identité multiculturelle de Melbourne, qui devient un creuset de traditions et d'innovations. Les années 70 sont aussi une époque de prise de conscience environnementale et de revendications sociales. La ville est témoin de mouvements politiques et sociaux importants, comme la libération sexuelle des femmes et la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Melbourne devient un symbole de progrès et de modernité, tout en faisant face aux défis d'une nouvelle crise économique et aux répercussions des chocs pétroliers mondiaux. C'est dans ce contexte de changement et d'effervescence que Collingwood, et plus précisément une maison sur Easy Street, se retrouve au cœur d'une histoire qui captive l'imagination de toute une nation. Suzanne Armstrong, Suzanne avec un Z, et Suzanne Barlett avec un S, sont deux amies affectueusement nommées les deux Suzes à cause de la ressemblance de leurs prénoms. Suzanne et Suzanne, ou Su, sont nées toutes deux en 1949. Suzanne avec un Z est juste quelques mois plus âgée que Su. À part leur différence d'âge, de nombreux aspects de leur vie se ressemblent. Ce sont aussi deux âmes dont les destins s'entrelacent bien avant que le drame ne les frappe. Suzanne Armstrong, âgée de 28 ans, grandit dans une famille monoparentale avec sa mère et ses trois frères plus jeunes. À son tour, elle devient une mère célibataire qui donne naissance à son enfant Grégory sur l'île ensoleillée de Naxos, en Grèce. Grégory est le fruit d'une romance passionnée durant ses vacances. Il devient le centre de son univers. À seulement 16 mois, C'est un enfant plein de vie. Ses yeux pétillants reflètent l'innocence et la curiosité. Grégory apporte un nouveau sens à la vie de Suzanne Armstrong. Chaque jour, elle s'émerveille de ses petites découvertes. Il est son ancre, lui donnant la force de surmonter les défis de la vie de mère célibataire dans une ville animée comme Melbourne. « Tu es mon petit miracle, tu le sais ça ? Chaque sourire de toi est un cadeau que je chéris », dit Suzanne en prenant son fils dans ses bras. Leur lien est indéniable, un amour maternel profond qui transcende les mots. Suzanne voit en Grégory non seulement son fils, mais aussi un espoir pour l'avenir, une promesse de jours meilleurs. Elle est déterminée à lui offrir le meilleur, à le protéger et à le guider à travers les aléas de la vie. Suzanne est connue pour son sourire chaleureux et son approche ouverte de la vie, attirant autour d'elle un cercle d'amis fidèles et diversifiés. « La vie est un voyage et chaque jour est une découverte », répète-t-elle souvent à son fils, les yeux pétillants d'enthousiasme. Malheureusement, la lumière que Grégory apporte dans la vie de Suzanne est assombrie par le tragique événement qui les sépare. Suzanne Barlett, quant à elle, âgée de 27 ans, est une enseignante dévouée au Collingwood Education Center. Suzanne grandit dans une Australie en pleine mutation, marquée par l'après-guerre et les débuts de la modernisation. Sue, tout comme Suzanne, est issue d'une famille monoparentale. Sa mère est célibataire et elle a un frère cadet, Martin Barlett. Sue développe très tôt une passion pour l'éducation, ce qui la conduit à devenir enseignante. Elle est fortement appréciée pour son intelligence vive et sa capacité à inspirer. Sue est également reconnue pour son dévouement envers ses élèves. En effet, elle raconte fréquemment à ses amis et sa famille qu'elle trouve son bonheur dans les petites victoires de ses élèves et dans les progrès qu'ils réalisent sous sa tutelle. Chaque enfant est un univers de possibilités, et c'est notre rôle de les aider à briller, rappelle-t-elle souvent à Suzanne. Sa relation avec Suzanne Armstrong, sa colocataire et amie proche, est un témoignage de son caractère chaleureux et son habileté à tisser des liens solides. L'amitié des deux Suzes prend racine dans les couloirs de l'école secondaire de Benalla, une petite ville régionale de Victoria, où elles partagent rires et rêves. Ensemble, elles décident de s'aventurer vers la grande ville de Melbourne, cherchant à tracer leur chemin dans le tissu complexe d'une métropole en pleine effervescence. En effet, en octobre 1976, les deux amies décident d'emménager ensemble. Elles élisent domicile au 147 dans le quartier de Easy Street. Elles s'installent dans cette maison de ville, un écrin aux allures de sanctuaire. Avec son couloir qui s'étire vers trois chambres accueillantes, une cuisine nichée à l'arrière, une salle de bain et un jardin où la nature reprend ses droits, ce lieu devient le théâtre de leurs rêves et de leur partage. La maison fournit suffisamment d'espace pour chacune d'elles, ainsi que pour Grégory. Mais au-delà des murs de briques et du jardin, c'est Mishka, le quatrième membre de la famille, leur fidèle compagnon à quatre pattes, qui apporte une touche de vie et de joie supplémentaire à leur foyer. Dans la petite cour, où une piscine gonflable est souvent dressée pour que Grégory puisse jouer, Mishka gambade avec enthousiasme, sautant et courant après une balle. « Regarde comme Mishka est heureux de courir après sa balle, c'est un vrai spectacle !» dit Suzanne en souriant. Oui, et il semble que Grégory soit tout aussi captivé par Mishka que nous le sommes. Ils sont inséparables, ces deux-là, renchérit Sue en riant. Grégory tend les bras vers l'animal. Ce dernier, avec un aboiement joyeux, court vers Grégory et le couvre de l'échouille, provoquant des éclats de rire chez l'enfant. C'est incroyable l'amour et la joie qu'un petit être à quatre pattes peut apporter dans nos vies. Absolument. Mishka est bien plus qu'un animal de compagnie. Il est un membre de notre famille, un lien d'amour qui nous unit tous, confirme Sue. Dans cet espace intime, elle cultive une existence sereine, bercée par la douceur de vivre et l'excitation d'une aventure naissante. Elles embrassent avec enthousiasme les promesses de Melbourne, cette ville vibrante d'opportunités. Regarde, Suzanne, cette ville, elle est pleine de promesses, tu ne trouves pas ? Demande Suzanne avec un Z. Oui, et nous allons les saisir, chaque opportunité, chaque moment de joie, répond Sue avec un sourire confiant et satisfait. Leur quotidien est un mélange de simplicité et d'aspiration, où les discussions autour d'un thé chaud se mêlent aux plans pour l'avenir. Suzanne, avec son sourire contagieux et son regard pétillant, parle souvent de voyages et de découvertes, tandis que Sue, plus posée mais tout aussi déterminée, rêve d'inspirer ses élèves et de laisser une empreinte positive dans le monde de l'éducation. « Je veux que mes élèves voient au-delà des murs de la classe, qu'ils comprennent que le savoir, est la clé qui ouvre toutes les portes, explique-t-elle. Et moi, je veux montrer à Grégory que le monde est vaste et magnifique. Nous avons tant à explorer, n'est-ce pas ? Rajoute Suzanne. Leur lien est fort, un mélange d'affection et de soutien mutuel, une amitié qui semble inébranlable. Partageant leurs espoirs et leurs rêves, le foyer devient un lieu de rencontre pour leurs amis, où les soirées se prolongent habituellement tard dans la nuit, remplies de discussions animées et de rires partagés. Tu imagines si nos rêves se réalisent ici, à Melbourne ? Se demande Suzanne. Je n'ai pas à l'imaginer, Suzanne. Avec toi à mes côtés, je sais que tout est possible, répond Su d'un air confiant. Mais alors que Melbourne s'éveille à une nouvelle décennie, un voile sombre va bientôt envelopper Easy Street et le destin de Suzanne et Su va entrer dans les annales de l'histoire criminelle, laissant derrière elle un des plus grands mystères de l'histoire de l'Australie. Peu de temps après que Suzanne et Suzanne se soient installées, précisément le 13 janvier 1977, une agitation inhabituelle vient troubler la quiétude du quartier. Les voisins, témoins impuissants, observent une procession soudaine de véhicules d'urgence et de forces de l'ordre converger vers la propriété. Un pressentiment glacial s'empare de tous. Un événement tragique vient de se dérouler derrière ces murs familiers. La tranquillité d'Easy Street est brisée, et les cœurs des voisins sont lourds d'une anxiété silencieuse, tous unis dans l'attente de nouvelles. Pourtant, tout commence 3 jours auparavant, le 10 janvier. La journée s'annonçait ordinaire sous le ciel clair de l'été australien. Suzanne Armstrong commence sa journée en berçant doucement son fils Grégory, le balancement rythmé par le chant des oiseaux matinaux. La maison est baignée d'une lumière dorée, promesse d'une journée paisible. Suzanne, avec son instinct maternel, prépare Grégory pour la journée, entre jeu et rire, tandis que Su s'affaire à préparer ses cours pour la semaine à venir. Alors que l'après-midi s'installe, Suzanne reçoit un appel de Martin, le frère de Su, qui propose de venir dîner avec sa petite amie. Les deux femmes accueillent l'idée avec enthousiasme, voyant là une occasion de partager un moment convivial et de rattraper le temps perdu. Martin vient ce soir, ça va être une belle soirée, exprime Suzanne en riant. Parfait, je vais préparer mon fameux gratin, tu sais combien il l'aime, renchérit Su, souriante. Le soir venu, Martin et sa compagne arrivent, apportant avec eux une brise de bonheur et de camaraderie. La table est dressée, les plats dégagent des arômes alléchants et la conversation s'engage naturellement. Ils rient, échangent des anecdotes et la télévision en arrière-plan diffuse un épisode de The Sullivans, ajoutant une touche de nostalgie à la réunion. Autour de la table du dîner, Martin semble comblé, il lève un toast. « À la famille et aux amis, les vrais trésors de la vie », proclame-t-il en levant son verre. « Et à ces moments qui nous rassemblent, simples mais précieux », ajoute Suzanne en écho. Après le dîner, alors que les rires et les conversations se dissipent, Su se souvient soudainement d'un petit désagrément qui perturbe leur quotidien. « Martin, tu te souviens que tu es un as de l'électronique ? Notre radio nous fait des caprices ces derniers temps », dit-elle en tapotant la radio silencieuse. Martin, toujours prêt à aider, s'approche avec un sourire confiant. « Laisse-moi y jeter un œil. Ce ne sera pas la première radio que je remets en marche. » Il ouvre délicatement le boîtier, ajuste quelques fils et, après quelques minutes de concentration, la radio s'anime, remplissant à nouveau la pièce de mélodie. « Tu es notre héros. La musique est l'âme de cette maison », dit Suzanne avec gratitude. « Et l'âme ne doit jamais s'éteindre. Voilà, votre compagnon musical est de retour », répond-il en riant. La soirée se déroule sans accroc, et lorsque l'heure du départ sonne, Martin et sa petite amie prennent congé, laissant derrière eux une maison emplie de chaleur et de souvenirs joyeux. « Bon, il est temps pour nous de rentrer. Merci pour le dîner, c'était délicieux, comme toujours. Contente que ça vous ait plu. Ne tardez pas à revenir. » Martin et sa compagne quittent la maison vers 21h. Suzanne et Su, désormais seules, s'installent confortablement pour le restant de la soirée. Elle se déroule dans une atmosphère paisible, agrémentée par la musique qui les accompagne jusqu'à ce que la nuit les enveloppe de son silence. Le lendemain, le soleil se lève, mais l'ombre d'un malheur plane déjà. Les voisins commencent à sentir que quelque chose ne va pas. Janet et Elona, voisines et amies, dans le paisible quartier de Collingwood, découvrent Mishka, le chien bien-aimé de Suzanne et Su, vagabondant seul, son pelage ébouriffé par le vent. L'animal semble perdu, ses yeux cherchant ceux de ses maîtresses. Les deux femmes, inquiètes, frappent à la porte du 147 Easy Street. Mais seules, le silence leur répond. C'est étrange. Mishka est toujours avec Suzanne et Sue, dit Janet, le front plissé par l'inquiétude. Ouais, c'est bizarre, répond Elona, la voix teintée d'une appréhension croissante. Elle décide de laisser une note sur la porte des deux Suzes, les informant qu'elle garde Mishka dans leur jardin. Mais les heures s'écoulent et personne ne vient. Le lendemain, une inquiétude plus profonde s'installe. Ces inquiétudes augmentent lorsqu'elles entendent le son de pleurs désespérés à travers le mur partagé de la maison. Des pleurs étouffés, ceux du petit Grégory, seul et affamé dans son berceau. C'était inhabituel que ces pleurs restent sans réponse, car Suzanne était une mère très attentionnée et affectueuse. Alors, leur inquiétude se transforme en action. Elona, jetant un regard furtif par-dessus la clôture, aperçoit la porte arrière de la cuisine grande ouverte, une lumière jaune s'échappant dans l'obscurité naissante. « Janet, la porte de derrière est ouverte, il y a de la lumière. »« C'est pas normal, » chuchote Elona, la peur commençant à serrer son cœur. « Et ses pleurs, ce doit être Grégory. Suzanne ne le laisserait jamais pleurer ainsi. » murmure Janet, sentant une urgence. Leur instinct les pousse à agir. La tension est palpable dans l'air, alors que Janet et Elona, déterminées à découvrir la vérité, gardent Mishka enfermé dans leur jardin et se dirigent vers la maison voisine. La note qu'elle avait laissée sur la porte d'entrée est demeurée intacte, un signe inquiétant que personne n'est venu. Elles empruntent la ruelle latérale. Elona et Janet, le cœur battant la chamade, s'engagent dans le jardin. Chaque pas les rapproche de la porte de la cuisine ouverte, une brèche sombre dans la façade de la maison qui promet de révéler des secrets inavouables. Elles avancent, guidées par un mélange de peur et de devoir. « Respire, Elona, respire !» se murmure-t-elle, tentant de calmer les battements frénétiques de son cœur. « Qu'est-ce qu'on va trouver ?» La question tourne dans l'esprit de Janet, chaque scénario plus terrifiant que le précédent. Elona avance et franchit le seuil en premier, ses yeux s'ajustant à la pénombre de la cuisine. Les objets du quotidien, si familiers et pourtant si étranges dans ce contexte, l'observent silencieusement. Elle est suivie par Janet, qui sent un frisson lui parcourir l'échine alors qu'elle s'avance, chaque fibre de son être sur le qui-vive, prête à affronter l'inconnu. L'intérieur est silencieux, à l'exception des pleurs déchirants de Grégory qui résonnent à travers les murs. Le petit garçon, habituellement si joyeux et entouré de l'amour maternel de Suzanne, pleure désespérément, appelant une réponse qui ne vient pas. « Grégory, mon petit, où est ta maman ?» s'inquiète Janet, la voix tremblante alors qu'elle s'avance dans le couloir. « Suzanne ? Suzanne ? Su ? Êtes-vous là ?» appelle Elona, chaque pas alourdissant le poids de l'angoisse qui les enveloppe. Soudain, leurs visages blêmes trahissent l'horreur de ce qu'elles découvrent, une scène d'horreur. Les corps des deux Suzanne gisent sans vie, victimes d'une attaque brutale. Suzanne est sur son lit, tandis que Sue est étendue dans le couloir, près de la porte d'entrée. « Appelons la police !» dit Elona d'une voix tremblante. « Mon Dieu, elles sont mortes !» L'angoisse monte d'un cran lorsque Janet et Elona réalisent que les pleurs de Grégory se sont tus. Le silence soudain est aussi alarmant que les cris désespérés qui l'ont précédé. Elle se précipite vers la chambre du petit, le cœur lourd de crainte, redoutant ce qu'elle pourrait y trouver. « Vite, il faut vérifier si Grégory va bien !» s'exclame Janet, la voix tremblante d'urgence. « Oui, chaque seconde compte !» Elle pénètre dans la chambre de Grégory et découvre, à leur grand soulagement, que le petit garçon est sain et sauf, dans son lit. Il est là, paisible, inconscient du drame qui s'est joué autour de lui. « Oh mon Dieu, il est vivant !» murmure Elona, les larmes aux yeux en voyant le petit garçon. « Nous devons le sortir d'ici maintenant !» dit Janet, prenant délicatement l'enfant dans ses bras. Elles enveloppent Grégory dans une couverture et sortent précipitamment de la maison, conscientes de l'importance de préserver la scène du crime. Elles savent que chaque indice est crucial et que leur intervention doit être mesurée pour ne pas entraver l'enquête à venir. « Faisons attention à ne rien toucher d'autre », conseille Elona, alors qu'elle traverse le seuil de la porte. « Il sera en sécurité avec nous », assure Janet, serrant Grégory contre elle. L'arrivée tardive de la police de Victoria au 147 Easy Street est marquée par une incrédulité initiale. Les appels répétés au 000 semblent interminables, le département de la police croit qu'il s'agit d'un canular et envoie une jeune recrue, après une attente angoissante de plus de 20 minutes. Elona l'accueille, le guidant à travers le même chemin qu'elle a emprunté, passant par la ruelle latérale jusqu'au jardin du 147. Le policier pénètre dans la cuisine, où chaque objet paraît à sa place. Un calme trompeur, qui contraste avec la scène qu'il s'apprête à découvrir. Le policier, toujours convaincu qu'il s'agit d'un canular, « Tout semble si normal ici, » murmure l'officier, scrutant les lieux. « Croyez-moi, c'est un silence trompeur, » répond Elona, la gorge serrée. Le policier avance dans le couloir, où la lumière diffuse révèle une vision macabre. Le corps de Suzanne Barlett gît face contre terre, sa robe de nuit maculée de sang. Les murs portent les stigmates d'une lutte violente, le sang éclaboussé témoignant de la brutalité de l'attaque. En se dirigeant vers la chambre, l'officier découvre Suzanne Armstrong dans son lit, sa robe de soirée rouge et blanche relevée autour de sa tête, son corps marqué par les traces d'une agression féroce. Quelle horreur ! Qui peut faire une chose pareille ? S'exclame l'officier, sa voix ébranlée par la gravité de la scène. Nous devons trouver des réponses. Pour elle, pour la justice, déclare Elona, les larmes aux yeux. Comprenant l'ampleur de la tragédie, l'officier saisit son émetteur radio et appelle des renforts. La rue Easy Street, autrefois synonyme de tranquillité, est désormais une scène de crime.
Ici l'agent 54, j'ai besoin de renforts immédiatement,
dit-il dans son émetteur, sa voix trahissant une urgence soudaine. Quelle est la situation ? Demande la centrale, alarmée par le ton de l'agent.
Deux victimes, agression mortelle. Envoyez toutes les unités disponibles,
répond-il, son regard balayant la scène macabre. L'arrivée de la police sur les lieux du drame à Easy Street rompt le silence assourdissant de la rue. Tu as vu toute cette agitation ? Murmure un voisin, l'œil collé à la fenêtre. Oui, et toutes ces lumières ? Ça ne présage rien de bon, répond l'autre, l'inquiétude perçant dans sa voix. Suzanne et Sue, elles sont si aimables, j'espère qu'elles n'ont rien, ajoute le premier, une note d'espoir tremblant dans ses mots. L'horreur de la découverte se révèle dans toute son ampleur. Sue gît dans le couloir, son corps témoignant d'une lutte acharnée. Elle a été poignardée 55 fois. Le sang, éparpillé en témoignage silencieux de sa résistance désespérée, recouvre les murs et le sol. Dans la chambre, Suzanne est retrouvée dans une posture qui glace le sang, nue à partir de la taille vers le bas, sa robe relevée sur sa tête, le corps marqué par 29 coups de couteau. Les traînées de sang autour d'elle racontent une histoire de violence et de terreur. La déchirure de sa robe et les preuves d'une agression sexuelle ajoutent une couche supplémentaire d'horreur à la scène. « C'est un massacre », murmure un détective, les yeux fixés sur les corps sans vie. « Nous devons trouver le monstre qui a fait ça », déclare un autre, la détermination se mêlant à la colère. Les inspecteurs, confrontés au corps de Suzanne Armstrong et Suzanne Barlett, poignardés de multiples fois, ressentent le poids de l'horreur qui s'est abattue sur cette maison. Aucune trace d'effraction n'est visible, mais une empreinte sur le rebord de la fenêtre suggère une intrusion silencieuse. Le meurtrier semble avoir pris le temps de se nettoyer dans la salle de bain avant de quitter les lieux par la porte arrière, laissant derrière lui plus de questions que de réponses. « Regardez cette empreinte, elle pourrait nous mener à lui », dit l'un des enquêteurs, pointant du doigt la marque révélatrice. « Il a dû se nettoyer ici après le crime », ajoute un autre, observant la salle de bain immaculée. Les jours qui suivent transforment la rue Easy Street en un théâtre d'investigation criminelle. Les détectives, méthodiques, dressent une liste de personnes d'intérêt, chacune pouvant détenir une pièce du puzzle macabre. « Nous devons interroger tous ceux qui ont fréquenté les victimes », insiste le chef de l'enquête. « Et vérifier chaque alibi, sans exception », renchérit son adjoint. La police, confrontée à une scène de crime d'une violence extrême, on vient à croire que le meurtrier a agi dans un accès de rage aveugle. La force exceptionnelle requise pour commettre un tel acte laisse les enquêteurs perplexes. « Il n'y a aucun signe d'effraction, mais tout était ouvert », note un officier, scrutant les fenêtres et les portes. « C'était une autre époque. Les gens vivaient ainsi », répond son collègue, pensif. Dans la chambre dessus, une fenêtre ouverte avec des rideaux arrachés et une empreinte boueuse sur les draps de Suzanne suggèrent un point d'entrée pour l'agresseur. Un livre renversé près de son lit indique qu'elle a été prise par surprise, peut-être par quelqu'un qu'elle connaissait. Les enquêteurs formulent une hypothèse. Suzanne aurait ouvert la porte à son agresseur, ce qui expliquerait pourquoi elle est la seule victime d'une agression sexuelle. La salle de bain révèle des traces de sang partout, bien que ni l'une ni l'autre des victimes ne semblent y être entrées. Les détectives supposent que le tueur a utilisé la baignoire et le lavabo pour se laver, tentant d'éliminer les preuves de ses actes. « Regardez près du bouchon, il y a encore du sang », observe un enquêteur, pointant vers le drain. « Et cette serviette tachée de sang sur le canapé, il a dû essayer de se nettoyer ici aussi », ajoute un autre. Les enquêteurs interrogent les voisins. Gladys Coventry, résidente au 145, tente de signaler à la police un homme étrange aperçu dans la cuisine de la maison, le soir des meurtres. Il semblait si calme, il se lavait les mains, puis il est simplement parti, raconte-t-elle au détective. Les détectives l'écoutent, mais Gladys se sent offensée et maltraitée par leur attitude et refuse de leur parler davantage. Réalisant leur erreur, la police tente d'obtenir plus d'informations en envoyant un officier déguisé en médecin chez elle, sous prétexte d'une visite de bien-être. Gladys n'est pas dupe et garde le silence. La police ne fait pas d'autres tentatives pour la presser de parler après cet échec. Ils ne cherchent même pas à réaliser un portrait robot de l'homme que Gladys prétend avoir vu. Et Gladys décède en 2006 à l'âge de 101 ans, sans jamais avoir donné un compte-rendu officiel complet de ce qu'elle avait vu la nuit où Suzanne et Suzanne ont été assassinées. Comme Gladys, un autre voisin, Peter Sellers, tente également de communiquer avec la police ce qu'il a entendu la nuit du meurtre. La police lui rend visite et parle à sa mère, qui leur dit que son fils détient des informations importantes sur la nuit des meurtres. Elle leur rapporte que Peter a entendu des bruits de portières de voiture vers 2h30 du matin. Selon lui, ces bruits indiquent la présence d'au moins deux personnes. Les détectives notent son nom et promettent de le recontacter, mais ils ne le feront jamais. Bien que Peter ait tenté de partager ce qu'il sait, la police n'a pas encore pris de déclaration formelle et officielle de sa part. D'autres enquêteurs découvrent un couteau non pas sur les lieux, mais à la gare ferroviaire de Victoria Park, un indice potentiellement crucial. Les analyses révèlent des traces de sang correspondant à Suzanne, mais pas à Sue, ajoutant une couche de mystère à l'affaire. Cela pourrait être l'arme du crime. Il l'a peut-être jetée ici avant de fuir par le train, conclut un enquêteur, tenant le couteau. La communauté, en état d'alerte, fournit des indices supplémentaires. Des lavettes ensanglantées dans un égout, un homme aux vêtements maculés de sang se rendant chez un teinturier, et un individu énigmatique à l'hôpital, les mains couvertes de sang, fuyant à la mention de formalités administratives. Il semblait pressé, nerveux. Si seulement j'avais su, dit le teinturier, se remémorant. Parmi les objets personnels, une note sous un cendrier interpelle. Un certain Barry demande à Suzanne de le rappeler. Nous devons trouver ce Barry. Il pourrait détenir une pièce manquante de ce puzzle macabre, dit un enquêteur en lisant la note. Barry, le petit ami de Suzanne, devient rapidement l'un des premiers suspects. Il est interrogé par la police. Barry raconte dans son témoignage que, préoccupé par l'absence de nouvelles de Suzanne avec qui il avait rendez-vous, il décide de passer à leur domicile le lendemain. Face au silence, il laisse un message, espérant un retour d'appel. Mais Suzanne reste injoignable. Je l'ai appelé toute la soirée, sans réponse. C'est là que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, confie Barry. Et vous n'avez rien remarqué d'inhabituel, pas le moindre indice ? Interroge l'inspecteur, scrutant Barry du regard. Rien. Tout était comme d'habitude, sauf son silence, son absence, révèle Barry, le visage sombre. Il raconte aussi que le 12 janvier, accompagné de son frère, il retourne à l'appartement. La porte de derrière est ouverte. Ils appellent, mais tout reste silencieux. Ils ne s'aventurent que dans la cuisine et ne remarquent rien d'inhabituel, ignorant que le drame se déroule à quelques mètres de là, dans le couloir. La police convoque alors son frère, Henri, et l'interroge. « Je confirme tout ce que Barry a dit. La porte était ouverte, mais à l'intérieur, tout semblait normal », affirme Henri, tentant de masquer son inquiétude. Les inspecteurs échangent des regards sceptiques. Le lien fraternel entre les deux hommes jette une ombre sur la crédibilité de leur récit. Pourtant, aucun fait concret ne vient contredire leur version des faits. L'enquête doit se poursuivre, chaque détail minutieusement examiné, car dans cette histoire, chaque fragment est un potentiel morceau du puzzle. Les techniques d'analyse ADN n'étant pas encore disponibles dans les années 70, les enquêteurs doivent se résoudre à une investigation plus traditionnelle. Ils recueillent des fluides corporels sur la scène du crime, mais un incident malheureux avec un officier contamine une partie des preuves. Sans équipement de protection ni protocole moderne, la scène de crime est compromise. Les enquêteurs se tournent alors vers le passé de Suzanne, cherchant des ennemis potentiels ou des éléments sombres susceptibles de fournir un mobile. Ils découvrent son aventure malheureuse à Miami, où à court d'argent, elle accepte une offre douteuse pour transporter ce qu'elle croit être des émeraudes de Colombie. Elle réalise trop tard qu'il s'agit en fait de cocaïne. Malgré les risques, elle réussit à passer la douane et à revenir en Floride, où elle est trahie et non payée. Elle retourne en Australie, sans faire d'histoire, sans garder la drogue, ni même réclamer son dû. Cet épisode, bien qu'étrange, ne semble pas lié à un quelconque mobile, et Suzanne n'a pas d'autres antécédents avec la drogue. Face à l'impasse, les enquêteurs élargissent leur champ de recherche et se tournent vers une nouvelle piste. Le père de Grégory. Adrian, l'ex-compagnon de Suzanne, est dans le collimateur des enquêteurs. Il soupçonne que la douleur de la séparation et la distance avec son enfant pourraient être un mobile pour le crime. Cependant, il découvre qu'il n'a jamais voyagé en Australie, ce qui rend improbable sa participation directe dans le meurtre, à moins qu'il n'ait mandaté un tueur à gages. Les enquêteurs découvrent, par la suite, que Su a un admirateur secret, un tabacologue anonyme qui semble la vénérer. La police l'interpelle. Il admet être entré par effraction dans la chambre de Su par la fenêtre, laissant derrière lui une empreinte boueuse sur le drap. Il justifie son acte par l'ivresse et le désir de récupérer le bon numéro de téléphone après une tentative d'appel infructueuse. Il assure que son intrusion a eu lieu le soir du 11, postérieurement au meurtre, et qu'il n'a ni aperçu les corps ni entendu les pleurs de Grégory. « Je voulais juste son numéro, je n'avais pas d'autres intentions », se défend-il devant les détectives, visiblement embarrassé. « Je vous assure, je n'ai rien vu d'anormal, rien entendu qui puisse m'alerter », répète-t-il, alors que les enquêteurs scrutent son visage à la recherche d'un signe de mensonge. Malgré son récit suspect, les détectives ne le considèrent pas comme un coupable potentiel. Il apparaît plutôt comme un homme égaré, pris dans une situation malencontreuse. Parmi les voisins, l'artiste Steve Cox attire l'attention des détectives. Sa curiosité pour l'affaire dépasse celle d'un simple voisin. Il se propose d'aider les détectives, mettant à profit son œil d'artiste pour repérer des détails inaperçus. Son comportement excentrique et son enthousiasme pour l'enquête suscitent des interrogations. Est-ce un citoyen impliqué ou dissimule-t-il un intérêt morbide pour le crime ? La police, après une enquête minutieuse, ne trouve aucune preuve liant Steve au meurtre. Malgré les rumeurs, il n'y a ni empreinte, ni alibi douteux, ni communication avec les victimes. Son approche atypique ne suffit pas à en faire un suspect. Avec un alibi solide, les détectives écartent Steve de la liste des suspects. John Grant attire également l'attention de la police. Il n'est pas qu'un simple voisin. Son nom circule déjà dans les discussions et les dossiers. Il est reporter criminel et collègue d'Elona, et la nuit des meurtres, il a passé la nuit juste à côté, chez Elona et Janet. Impliqué dans le milieu criminel et la police de Melbourne, par nécessité professionnelle, il est, par ailleurs, lié à une autre affaire non résolue. La disparition de Julianne Garcia, 19 ans, manquante et présumée morte depuis le 1er juillet 1975. Les soupçons pesant sur Grant concernant Julianne, ajoutés à sa présence à côté le soir des meurtres, font de lui l'un des premiers suspects. Mais, malgré un examen minutieux, la police ne parvient pas à établir de lien entre Grant et les deux victimes, au-delà de la nuit passée chez Elona et Janet le soir des meurtres. D'autres suspects principaux incluent un ancien policier renvoyé pour des allégations d'agression sexuelle, ainsi qu'un homme de Manille qui a fréquenté Suzanne quelques années auparavant et qui est déjà connu de la police. Malgré les efforts des enquêteurs, aucun des suspects n'est inculpé, et l'enquête sur les meurtres de Suzanne et Sue, à peine 6 mois après leur décès, n'apporte aucune information significative. Les détectives impliqués dans l'enquête se tournent vers d'autres affaires, et les progrès pour trouver le meurtrier de Sue et Suzanne s'arrêtent. Bien que la police ait épuisé ses suspects et ses preuves, certaines personnes auraient pu en dire davantage sur la nuit des meurtres. Penses-tu que Grant cache quelque chose ? Peut-être que ses articles sont un moyen de détourner l'attention, murmure le premier détective, l'ombre d'un doute traversant son esprit. C'est possible, répond le second détective, scrutant les notes éparpillées sur la table. Mais sans preuve concrète, on ne peut pas l'accuser. Et ce type de manille? Il a un alibi solide pour la nuit des meurtres, rétorque le premier, le regard fixé sur le tableau rempli de photos et de fils rouges. Et les Woodward? Rien de suspect chez eux non plus, soupire le second, la frustration se lisant sur son visage. On tourne en rond. Le silence qui suit est lourd de réalités non dites, chaque hypothèse s'évaporant aussi vite qu'elle est formulée. La communauté reste en alerte, les rumeurs circulent et l'ombre du mystère plane toujours sur le quartier. Tess Lawrence, rédactrice pour le journal Independence Australian, est sollicitée pour écrire un article sur l'affaire et visiter la scène du crime. Elle se rend sur place, mais l'horreur de la vision des murs ensanglantés la bouleverse, même après le retrait des corps. C'est comme si chaque tâche racontait une histoire terrifiante, murmure Tess, les yeux écarquillés devant les murs ensanglantés. Les murs encore maculés du sang des victimes lui font immédiatement ressentir la gravité de l'affaire. Après avoir pris quelques instants pour se recueillir, Tess rencontre les membres de la famille pour en apprendre davantage sur les victimes et établir un lien potentiel avec leur assassinat. Elle découvre que la police n'a pas interrogé certains proches qui se sentent négligés dans l'enquête. Je ne peux pas imaginer ce que vous ressentez, mais je suis ici pour aider à faire connaître cette histoire, pour que justice soit faite, dit la journaliste d'une voix douce mais ferme. Merci. Nous avons besoin que cette histoire soit entendue. Peut-être que quelqu'un se souviendra de quelque chose, répond une sœur éplorée, les yeux emplis d'espoir et de tristesse. Ils ne nous ont même pas posé de questions, comme si nous n'étions que des ombres dans leur enquête, dit un membre de la famille, perplexe. Tess prend des notes méticuleusement, chaque détail pouvant être la clé pour relancer l'enquête. Elle pose des questions délicates, toujours avec respect et empathie. « Y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel avant les événements ?» interroge Tess, son stylo prêt à capturer leur réponse. « Rien ne laissait présager une telle tragédie », confie un ami de longue date, le regard perdu dans le vide. Tess quitte la scène du crime avec une détermination renouvelée. Elle sait que son article pourrait être crucial pour raviver l'intérêt du public et peut-être même apporter un nouvel éclairage sur l'affaire. Avec compassion et dévouement, elle s'engage à raconter l'histoire des victimes avec honnêteté et intégrité, espérant que la vérité émergera enfin des ombres du passé. Après la publication de son article, Tess Lawrence reçoit un appel troublant. Une voix masculine critique son article, prétendant qu'elle a omis des détails cruciaux présents dans l'appartement des Suze. Tess réalise qu'elle parle à quelqu'un qui connaît intimement la scène du crime.
Vous n'avez pas tout dit, madame la journaliste.
Ricane la voix au téléphone.
Vous avez omis le disque qui tournait sur la platine.
Qui êtes-vous? Comment savez-vous cela? Demande Tess, son cœur battant la chamade. Tess confronte l'homme mystérieux au téléphone. Elle insiste pour qu'il contacte la police s'il détient des informations cruciales. L'homme, de plus en plus irrité, suggère une rencontre et révèle qu'il travaille aux signaux des casernes de Victoria, mais refuse de donner son nom. « Si vous avez quelque chose à dire, parlez aux autorités », presse Tess, la voix ferme malgré la tension.
« Peut-être que je le ferai, peut-être pas. »«
Je vous rappellerai », répond l'homme, énigmatique. La conversation se termine brusquement. Tess rapporte l'incident à la police, mais il ne donne pas suite, un reflet de la négligence qui entoure l'affaire. Les tests ADN sur les suspects, au nombre de 8, ne mènent à rien et les échantillons ne correspondent à personne dans la base de données australienne. Certains prétendent que l'échantillon de fluide corporel trouvé près du corps de Suzanne n'était pas pertinent, tandis que d'autres soutiennent qu'il a été contaminé et égaré par la police. En 2004, une nouvelle piste apparaît lorsque le beau-père de Suzanne reçoit une lettre accusant l'hôpital de Narenda de négligence criminelle et suggérant que Jack Christie pourrait être le tueur. L'auteur de la lettre, un patient de l'hôpital, affirme que Jack avait exprimé des pulsions meurtrières lors d'une thérapie de groupe. Il soupçonne une relation entre Jack et Suzanne qui aurait mal tourné lorsque des menaces de dénonciation auraient été évoquées. Cher Bert, c'est tragique. L'hôpital et la brigade criminelle ont ignoré les signes, lit-il à haute voix, la lettre tremblante entre ses mains. Jack Christie, pourrait-il vraiment être le tueur ? Murmure-t-il, perdu dans ses pensées. Barry, le compagnon de Suzanne à l'époque, réfute l'idée d'une liaison entre elle et Jack Christie. Ils discutaient mariage, et bien qu'il admette la possibilité que Suzanne ait pu voir d'autres hommes, rien ne la relie à Christie. Un homme obsédé par cette théorie envoie des lettres accusatrices à tous les voisins d'Easy Street et harcèle la famille, qui finit par alerter la police. Les autorités les rassurent. Cet homme est connu pour semer le trouble parmi les familles endeuillées, et Christie est décédé depuis longtemps. Des années de recherches, d'interrogations et de théories n'ont fait qu'épaissir le voile de mystère qui entoure ce tragique événement. Malgré les efforts d'une équipe de 16 détectives, l'enquête sur les meurtres s'est rapidement enlisée. En 2011, l'affaire a été discrètement rouverte sous la supervision du détective Ron Eddles. Le 15 janvier 2017, 40 ans après les meurtres, la police de Victoria offre une récompense d'$1 million, espérant que les tests ADN, bien qu'ayant échoué à identifier le coupable, aideront à résoudre l'affaire. Barry, déterminé à trouver la vérité, encourage toute personne détenant des informations à contacter Crime Stoppers. Nous devons continuer à chercher, pour Suzanne, pour Grégory, insiste Barry. Si vous savez quelque chose, n'hésitez pas, chacun discompte, ajoute-t-il, l'espoir teintant sa voix. L'affaire des meurtres de la rue Easy captive l'attention publique et médiatique depuis des années. L'affaire inspire également des œuvres artistiques et littéraires. Steve Cox réalise plusieurs œuvres d'art basées sur cette affaire. Plusieurs livres sont publiés, dont They Trusted Men, The Untold Story of the Easy Street Murders, de Tom Pryor en 1996, et Murder on Easy Street, Melbourne's Most Notorious Cold Case, d'Hélène Thomas en mars 2019. Les esprits s'interrogent. Le coupable se cache-t-il parmi les suspects connus, ou se dissimule-t-il ailleurs ? Est-il lié à une autre tragédie, encore inexpliquée ? La demeure, témoin silencieux, a vu défiler les années et les propriétaires sans jamais révéler ses secrets. Les réouvertures de l'enquête de 1983, 2011 et 2017 ont ravivé l'intérêt de la population. Mais même la promesse d'une récompense d'$1 million n'a délié aucune langue. Malgré une centaine de suspects interrogés, aucune arrestation n'a été effectuée. Grégory, orphelin de mère, a été recueilli et élevé sous le soleil du Queensland par une tante, qui milite toujours activement pour la résolution de l'affaire. Presque 50 ans après le drame, on ne sait toujours pas qui a tué les deux Suzes, ce mois de janvier 1977. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.